architecte et d'un réalisateur multimédia. Le spectacle s'annonce donc grandiose et l'expérience sensorielle globale avec Rhinocéros qui sera de passage le 21 novembre au Docks de Lausanne et dont le nouvel album s'intitule Futurino. Pochette, références et liens vous attendent sur journaldusamedi.rsr.ch.
Infotrafic RSR.
Attention, une palette CFF encombre la chaussée sur l'autoroute Genève-Lausanne entre Coppet et Nyon en direction de Lausanne. Roulez prudemment dans ce secteur. Radio Suisse Romande, la première, il est 8h30. Le journal est présenté par Yannick Leblanc.
En Iran, la manifestation prévue aujourd'hui par les opposants qui contestent l'élection présidentielle du 12 juin n'est pas annulée, a affirmé ce matin l'opposition iranienne. Le candidat des faits, Mirosein Mousavi, ne s'est pas encore prononcé. Hier, le guide suprême iranien a exigé l'arrêt des manifestations. Ali Khamenei a lancé cet avertissement. S'il y a un bain de sang, les manifestants en seront tenus directement responsables. À Téhéran, le pouvoir se prépare à la répression. Siavosh Ghazi.
En soirée, de nombreux Basidjis, ces fameux miliciens islamistes, sont déployés sur les principales places de la capitale. Pour la première fois depuis le début du mouvement de protestation, ils étaient vêtus de leur uniforme et portaient des casques et des matraques. Certains avaient même des kalachnikovs. Ils ont notamment établi des barrages sur les axes principaux de Téhéran pour quadriller la ville dans le but d'empêcher toute manifestation. Ce samedi est une journée test. En effet, l'association des religieux combattants, fondée par l'ancien président réformateur Mohammad Khatami, a appelé à une nouvelle manifestation avec un discours de Mirosein Mousavi. Le pouvoir a interdit cette manifestation. Reste à savoir si malgré cette interdiction, les partisans de Mirosein Mousavi descendront toujours dans la rue. En effet, l'Ayatollah Khamenei a lancé une mise en garde très claire en affirmant que les dirigeants réformateurs seront responsables de tout débordement et du sang versé. Siavosh Ghazi, Radio Suisse Romande, Téhéran.
Barack Obama s'inquiète de la situation en Iran. Le président américain a déclaré hier que la façon dont les autorités traiteront les personnes manifestant pacifiquement enverra un message clair à la communauté internationale.
La Suisse et les États-Unis ont paraphé une convention de double imposition qui permet l'échange d'informations fiscales entre les deux pays.
L'accord annoncé hier par l'Office fédéral des finances et le Trésor américain a été conclu jeudi à Washington au terme d'une série de négociations entre les deux pays. Le texte adopté est encore confidentiel. Mais selon une source proche du dossier, le retrait de la plainte contre UBS ne fait pas partie des négociations. Une situation normale selon Martin Naville, directeur de la Chambre de commerce Suisse-États-Unis.
L'affaire UBS ne pouvait jamais faire partie d'une négociation sur la double imposition puisque c'est des processus complètement différents d'un processus judiciaire en dedans des États-Unis. Et deuxièmement, l'affaire UBS n'est pas directement une affaire contre la Suisse, mais une affaire contre une compagnie spécifique. Maintenant, c'est très clair, j'espère beaucoup que les Suisses ont très bien informé les contreparties américaines que si l'affaire UBS n'était pas réglée, que ça serait extrêmement difficile de faire passer cet accord de double taxation dans le Parlement suisse, puisque là, il y aura quand même beaucoup d'émotions populistes qui vont éviter que la ratification de cet accord se passe.
Des propos recueillis par Dominique Chauffat. La taxe CO2 sur les combustibles passera de 12 à 36 francs la tonne l'an prochain. Le prix du litre d'huile de chauffage passera donc de 3 à 9 centimes. Cette hausse intervient parce que les objectifs de diminution des émissions de CO2 n'ont pas été atteints en 2008. Le collectif contre l'importation d'agrocarburants à Delémont s'oppose à l'installation dans la capitale jurassienne d'une usine de bioéthanol fabriquée avec de la canne à sucre brésilienne. Le député écologiste Éric Henquin, membre du collectif, compte sur un vaste réseau pour obtenir un moratoire sur les agrocarburants.
Il y a un premier moratoire qui a été demandé au niveau suisse par M. Rechsteiner, qui est président de Suissed, qui fait partie d'une plateforme agrocarburant. Et cette plateforme regroupe des milieux des églises, des milieux des syndicats, des milieux des ONG qui font du travail nord-sud. L'initiative Rechsteiner a été signée par 104 conseillers nationaux, ce qui signifie que la demande qui a été faite à Berne a d'ores et déjà la majorité du conseil national. Donc c'est une démarche qui entre dans un système de réseau à la fois au niveau national et au niveau international. D'ailleurs, le moratoire, il est aussi demandé au niveau de l'Union européenne et dans d'autres pays également.
Des propos recueillis par Christian Favre, la députée Erika Henkin a déposé une motion pour un moratoire sur les agrocarburants.
Plus d'un être humain sur six souffre de la famine.
C'est ce que révèle un rapport publié hier par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Un rapport qui précise que le nombre de personnes privées d'accès à la nourriture a considérablement augmenté ces derniers mois. Sylvio Dolzan.
Durant les 12 derniers mois, plus de 100 millions de personnes sont venues allonger la liste des victimes de la faim, qui sont désormais plus d'un milliard. Il n'y en a jamais eu autant. Et la quasi-totalité de ces affamés vivent dans les pays en développement. Pourtant, la production mondiale de céréales, pour ne prendre que cet exemple, n'a jamais été aussi importante. Le directeur général de la FAO, Jacques Diouf, voit une explication dans la crise économique. Elle a entraîné une baisse des revenus et des pertes d'emplois, alors que le prix des denrées est resté élevé. L'an dernier encore, lors de leur rencontre annuelle, les pays membres de la FAO avaient confirmé leur engagement à réduire de moitié le nombre des victimes de la faim d'ici 2015. On n'en prend malheureusement pas le chemin. Le rapport de la FAO sera distribué le mois prochain aux chefs d'État participant au sommet du G8, des chefs d'État qui ont mis justement la sécurité alimentaire à leur ordre du jour.
En tennis, Rafael Nadal déclare forfait à Wimbledon. Le numéro 1 mondial ne pourra pas défendre son titre en raison de problèmes aux deux genoux. Et en cyclisme, Fabian Cancellara est bien placé pour remporter le Tour de Suisse aujourd'hui, disputé entre le Sentier jusqu'à Crans-Montana. Le Bernois a 9 secondes de retard sur le leader, le Slovène Tadej Valjavec.
Merci Jeannick Leblanc. Le temps sera ensoleillé avec des passages nuageux aujourd'hui en Suisse romande. Le fond de l'air est frais, il fera de 19 à 21 degrés au maximum. Une perturbation s'installera en fin de journée, donnant des averses isolées, surtout à la montagne. La journée de demain sera plus grise encore, avec de la bise. Une météo en demi-teinte hein, pour terminer ce dernier journal du samedi du printemps. Merci à toutes celles et ceux qui fleurissent cette émission, quelle que soit la saison. Nos équipes multimédia, techniques et programmation musicale sont représentées pour cette édition du 20 juin par Daniel Sulam, Frédéric Tzant et Jean-Baptiste Roumens. Notre page web vous en dira plus si vous recherchez une référence ou un lien quant aux différents sujets abordés depuis 6h ce matin. journaldusamedi.rsr.ch. Bon week-end sur la première. Rendez-vous en été.
Atlas. Une émission de François Benedetti. Présentation Xavier Bloch.
Catastrophe. Le mot s'affiche au pluriel à la une de ce magazine, un mot que nous avons choisi de décliner ce matin avec vous jusqu'à 9h30. Premier signe annonciateur d'une catastrophe, la météo. Le récent crash de l'Airbus d'Air France nous rappelle qu'aviation et météorologie ne font pas toujours bon ménage. Explication, hypothèse, en fin d'émission. En Russie, c'est la pollution qui est bien souvent à l'origine de nombreuses catastrophes. Notre confrère et skipper Marc Decret nous le confirmera peut-être tout à l'heure. Il est au bord de la mer Blanche où nous tenterons de le joindre par téléphone vers 9h10 à bord de son voilier Chamad. Enfin, est-il possible de réduire le risque de catastrophes naturelles ? C'est la question que nous nous posons dans un instant. Bonjour et bienvenue à bord d'Atlas, votre magazine Nature et Environnement. Comment réduire le risque de catastrophe ? C'est la question centrale débattue toute cette semaine à Genève lors de la deuxième plateforme globale sur la prévention des catastrophes. Une réunion importante à laquelle ont participé 1500 délégués représentant plus de 150 gouvernements et presque autant d'ONG. Une rencontre organisée par l'ISDR, la Stratégie internationale de prévention des catastrophes. C'est une agence onusienne qui a publié en début de semaine un rapport global sur la réduction du risque de mortalité en cas de catastrophe naturelle. Le Genevois Pascal Peduzzi est l'un des auteurs de ce rapport global. Il est mon invité d'ici à 9h. Alors avant de détailler les résultats de cette publication, dites-nous peut-être d'abord Pascal Peduzzi ce que représente ce rapport. Autrement dit, comment le définissez-vous ?
Alors une première chose, c'est un rapport qui s'intéresse aux risques face aux catastrophes naturelles. Or, les aléas naturels sont assez nombreux et on a étudié 6 de ces aléas qui sont les cyclones tropicaux, les inondations, les séismes, les glissements de terrain, les sécheresses et les tsunamis.
Pascal Peduzzi, sur quelle période donnée avez-vous étudié ces phénomènes naturels ?
Nous avons regardé une période depuis 1977 jusqu'à 2007, c'est-à-dire 31 ans de données, mais qui utilise aussi des modélisations qui nous permettent d'aller au-delà. Donc si on veut donner une image, le nombre de données qui ont été traitées pour cette étude, ça représente 1,5 terabyte. Alors imaginez une pile de CD-ROM, si on devait faire rentrer toutes ces données dans une pile de CD-ROM, il en faudrait une pile de 4 mètres de données que nous avons dû travailler, tester.
Alors, on parlera dans quelques minutes du contenu de ce rapport, des conclusions qui sont avancées par les différents offices, les différentes agences onusiennes qui s'y sont plongées. Un mot tout de même sur la méthode. Comment est-ce que vous avez travaillé et pendant combien de temps ?
Alors, nous avons commencé en 2007 en définissant d'abord la méthodologie. Donc, ensemble, c'est à peu près une vingtaine de scientifiques qui ont travaillé pendant 2 ans sur cette étude. Mais également, toutes les méthodologies de modélisation des aléas ont été revues par 24 experts indépendants qui ont été sélectionnés par l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, et par l'UNESCO. Donc ça implique évidemment beaucoup, beaucoup de monde.
Et les données ont été centralisées à Genève ?
Les données ont été centralisées à Genève. La plupart du travail d'analyse également a été fait ici à Genève.
Qu'est-ce qui fait la particularité de cette étude par rapport à d'autres études sur l'environnement qui ont déjà été menées au niveau mondial ?
Elle permet d'étudier la sévérité des aléas, qui est une composante qui n'avait pas encore été prise en compte dans les rapports précédents. Et de plus, elle utilise des données beaucoup plus précises que nous avons à disposition. Donc nous avons une caractérisation du risque qui est plus précise au niveau spatial également.
Quel est le public cible, autrement dit, à qui est principalement destiné ce rapport, ce bilan mondial ?
C'est un rapport qui a été commandité par plusieurs agences des Nations Unies et ça les intéresse particulièrement parce qu'ils veulent savoir dans quelle direction il faut qu'ils priorisent leurs efforts. Donc ils veulent savoir quels sont les pays, et même à l'intérieur des pays, dans quelle région des pays est-ce qu'ils doivent faire davantage de progrès. Mais ça peut également intéresser d'autres personnes. Ça peut intéresser le monde académique sur le type de recherches qui ont été faites, les modélisations que nous avons effectuées sur les aléas, et les gouvernements, bien évidemment, puisque eux, ils veulent aussi savoir se jauger. Certains gouvernements ont très très peu de capacité de modélisation et vont partir de presque rien. Donc ça peut aussi les aider comme première pierre dans la construction de leur définition du risque en allant chercher, nous on peut dire déjà dans quelle zone il faut chercher des données plus détaillées. Par contre, notre recommandation, ce n'est absolument pas d'utiliser des données globales pour faire des décisions au niveau local, mais au moins, ils peuvent savoir quels sont les endroits où il faut des données plus détaillées.
Jusqu'à 9h ce matin, nous évoquons la réduction des risques de catastrophes naturelles à l'échelle de la planète à l'occasion de la publication de ce rapport mondial, ce bilan publié par plusieurs agences de l'ONU sur ce sujet. Alors quelles sont les zones à risque, les pays les plus exposés ? Y a-t-il égalité ou inégalité face aux risques que nous décrivons ce matin, risques de catastrophes naturelles ? Élément de réponse après cette première chanson qui est signée Clarica.
Moi, au mieux, c'est être grande avec des cheveux qui descendent là le long du creux et retombent tout en bas du dos en cascade et ça fait beau. C'est danser comme Shakira sur des textes de Barbara, belle mais super accessible, intelligente et sensible. Moi au mieux, c'est tout comprendre sans la ramener, avoir les codes pour décrypter un avis enfin personnel sur la Palestine, Israël. C'est aller à toutes les manifs mais y rester jusqu'au bout, sans bifurquer au bout d'une heure au café pour boire un coup. Et je marche solaire sur la 5e avenue. L'ombre des tours de verre m'adore et me salue. Le palais Tokyo, mieux que les rayons du printemps. Faire haro sur la conso, réfléchir sous le néant. Moi au mieux, c'est adorer le temps qui passe. Trouver que c'est trop cool de vieillir, que la sagesse devant la glace est le meilleur des élixirs. Ne plus avoir peur de mourir, c'est normal, c'est l'aboutissement, et le meilleur reste à venir. Et ça le penser, vraiment. Et les jolis des yeux sont des papillons qui exauceront nos voeux.
Atlas, 8h35, 9h30, chaque samedi sur Radio Suisse Romande la Première.
Les catastrophes naturelles sont hélas de plus en plus fréquentes, mais tous les pays ne sont pas égaux devant les désastres et les conséquences de ces catastrophes naturelles. C'est l'une des conclusions, elles sont nombreuses, de ce bilan mondial, la réduction des risques de catastrophes naturelles que nous évoquons ce matin jusqu'à 9h en votre compagnie. Pascal Pelouzi, vous êtes l'un des coordinateurs, il y a plusieurs chapitres, vous avez signé l'un des principaux chapitres de ce rapport. Alors le mot « hit parade » est mal choisi, mais enfin si on devait les hiérarchiser, quels sont les risques de catastrophes naturelles majeures, qui cause le plus de dégâts, le plus de morts?
Il faudrait un tout petit peu expliquer ce que c'est que le risque. Le risque, il dépend de trois composantes. Une des composantes, c'est l'aléa. Qui serait l'aléa, c'est par exemple les inondations, les séismes, les cyclones tropicaux. L'autre chose qui va configurer le risque, c'est le niveau d'exposition. Donc plus il y a de personnes qui habitent dans ces zones d'aléa, plus ça peut amener du risque. Mais cela dépend essentiellement de leur vulnérabilité. Si on veut, comme une image, le tremblement de terre, c'est pas l'aléa qui va tuer, c'est les bâtiments qui dégradent de gueule. Et les bâtiments qui s'écroulent, eh bien, ils s'écroulent parce qu'ils ont été mal construits. Donc c'est pas une question d'aléa naturel, c'est le produit en fait de ces trois composantes.
Donc on ne peut pas dire qu'un tremblement de terre est forcément plus dangereux ou plus dévastateur qu'un cyclone?
Non, on ne peut pas dire ça exactement. Ça va dépendre du type de bâti. Le problème, c'est de réaliser des bâtiments qui soient résistants contre ces aléas.
Alors, je tourne ma première question autrement. Si on ne peut pas hiérarchiser les différents types de catastrophes naturelles en fonction de la mortalité, est-ce qu'en prenant le même type de catastrophe naturelle, est-ce qu'il y a égalité ou inégalité face à la nature qui se déchaîne, aux éléments naturels qui se déchaînent, en prenant deux pays, par exemple?
Alors, le risque est éminemment concentré. Et c'est un des résultats de cette étude, c'est qu'on voit que par exemple 75% du risque d'inondation est dans trois pays, soit l'Inde, le Bangladesh et la Chine. Alors que le risque des cyclones tropicaux est à 76% et quelques au Bangladesh et à encore plus de 10% en Inde. Donc on voit que c'est un risque qui est extrêmement concentré dans certaines zones spatialement. Maintenant si on regarde, il y a une inégalité également dans le sens que les pays les plus pauvres vont avoir une proportion beaucoup plus importante de pertes par rapport aux pays les plus riches. C'est quelque chose qu'on savait déjà, mais que le rapport démontre de manière assez évidente. Prenons deux exemples. Le Japon et les Philippines. Le Japon a une exposition au cyclone qui est la plus élevée de la planète. Il a même une fois et demie plus de cyclones, de personnes exposées au cyclone que les personnes qui habitent aux Philippines. C'est une exposition très très importante. Mais le Japon a mis en place un certain nombre d'exercices, des structures adéquates, des règlements de construction, et des entraînements pour sa population, qui fait que si on compare même alors qu'il a plus d'exposition, ils ont 17 fois moins de personnes tuées qu'aux Philippines. Donc on voit que même en étant plus exposé, on peut avoir un risque qui est plus faible. Un pays qui fait très très bien en termes de protection par rapport aux cyclones tropicaux, c'est Cuba, qui démontre que même avec peu de moyens, on peut réduire les risques de fatalité, de mortalité de manière importante. Malheureusement, vous ne pouvez pas évacuer les champs et les infrastructures. Donc Cuba a toujours des pertes très importantes dans son économie, dans son agriculture, mais au moins en termes de mortalité, ils ont vraiment réussi à sauver énormément de vies.
Pascal Pelouzi, alors depuis quelques minutes, on a cité quelques pays, pêle-mêle le Japon, Philippines, le Bangladesh, à l'instant Cuba. Quelles sont les régions de la planète, les pays qui sont les plus exposés systématiquement au risque de catastrophes naturelles?
Bon, c'est évidemment l'Asie en termes absolus. Déjà, l'Asie est la partie la plus peuplée de la planète, mais c'est aussi une région où vous avez un niveau de fréquence et d'intensité des aléas naturels, que ce soit les inondations, les cyclones, les tremblements de terre, les glissements de terrain, qui sont très très importants. Maintenant, on peut également, ça c'est en termes absolus, c'est-à-dire absolus, c'est le nombre de personnes qui sont en risque de mourir par année dans un pays. Maintenant, si on prend en pourcentage de la population, des petits territoires, des petites îles comme Vanuatu, par exemple, qui sont très faibles en population, donc ils ne vont jamais faire un nombre de morts qui soit très important par année, mais en prorata de leur population, c'est énorme. Et là, on voit que les petites îles en développement souffrent énormément des risques, et surtout, une île, quand elle est affectée par un cyclone, c'est l'intégralité du territoire. Donc il y a beaucoup moins de possibilités d'avoir du support du reste du pays. Prenez un archipel qui est au milieu du Pacifique. Pour lui, avoir de l'aide, ça veut dire souvent plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres du pays voisin. Alors que pour un pays comme l'Inde ou pour la Chine, qui sont affectés par des aléas naturels très très élevés, mais ils ont quand même tout le reste du pays qui est là pour les aider. Donc c'est là où on voit que les petits territoires ont une vulnérabilité très importante.
Par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, aux différents critères, hein, comment se situe la Suisse ? Zone risquée bien préparée au risque ?
Nous sommes exposés à un certain nombre d'aléas qui sont les aléas d'origine sismique, notamment en Valais. Bâle a été éradiqué de la carte en 1500 et quelques. Mais nous avons aussi également des aléas hydrométéorologiques que sont les inondations. Par contre, nous sommes assez bien préparés et nous avons quand même pas mal de moyens pour y faire face. Ceci n'empêche pas que un certain nombre de nos bâtiments ne sont pas préparés pour être résistants au séisme. Et qu'il est en cas de fort séisme, il y aurait quand même du souci à se faire pour certaines régions de la Suisse.
Alors, dans ce rapport mondial, ce bilan global de réduction des risques de catastrophes naturelles, ce n'est pas un bilan très optimiste. Hein. Il y a de quoi se faire du souci. Est-ce qu'il y a une ou deux nouvelles, je n'irai pas jusqu'à dire positives, mais est-ce qu'il y a une ou deux améliorations en matière de catastrophes naturelles ou de prévision des risques de catastrophes naturelles ?
Un des messages assez positifs, c'est de voir que certains pays ont vraiment réussi à prendre des mesures et ils ont démontré que même avec peu de moyens, c'était réalisable. Donc ça doit inspirer d'autres pays qui se retrouvent dans la même situation. Et éventuellement, ce qu'on aimerait faire, c'est que ces pays qui sont face à des simulations similaires échangent finalement leurs meilleures pratiques.
Quel plan de mesures pour essayer de limiter l'impact de certaines catastrophes naturelles dans la plupart des zones de cette planète qui sont fortement exposées? C'est le dernier sujet qu'on aborde donc tout à l'heure avec vous, Pascal Peduzzi, juste après des Rolling Stones. Les catastrophes naturelles sont hélas en augmentation depuis une trentaine d'années dans le monde. Le risque s'accentue, nous l'avons dit, on a évoqué ce sujet depuis 8h30 avec notre invité Pascal Peduzzi, mais en même temps les moyens de lutte et de prévention se développent aussi également. Alors le rapport mondial de réduction des risques de catastrophes naturelles dont nous parlons ce matin se termine sur un plan d'action en 20 points, on va peut-être pas les passer en revue les 20, mais Pascal Peduzzi, quelles sont les priorités absolues définies par ce rapport pour essayer d'améliorer cette situation et donc de réduire les risques face aux catastrophes naturelles?
Bon, une chose que ce rapport essaie de faire, c'est de faire en état des lieux et de faire une prise en compte des gouvernements de leur niveau de risque. Il faut savoir que la semaine qui s'est écoulée, nous avons une conférence à Genève avec plus de 1800 délégués des différentes agences onusiennes, mais surtout des gouvernements. Donc c'est avec cette plateforme que nous pouvons avancer dans la réduction des risques en proposant un certain nombre d'améliorations dans le niveau de gouvernance. Il faut savoir que la gouvernance autant rurale que urbaine a été vue comme n'étant pas suffisante pour répondre aux risques, à savoir les plans d'aménagement des villes et les codes de construction ne sont pas encore à niveau dans beaucoup de pays pour les risques. Donc la première chose à faire absolument, c'est de faire un inventaire des zones qui sont sujettes aux aléas et dans ces zones-là, voir les bâtiments qui ont besoin d'être assainis. Et en priorité, je dirais, les écoles et les hôpitaux. Ça doit être une priorité de tous les gouvernements, de faire en sorte qu'au moins ces bâtiments-là soient résistants.
Qu'est-ce que vous avez comme garantie que les gouvernements vont suivre ces mesures ? Vous avez des moyens de pression pour vous assurer qu'ils les suivent, ces gouvernements ?
Si seulement. Non, nous n'avons pas de moyens de pression, a priori, de manière légale. C'est-à-dire que nous avons mis en place un cadre, un programme cadre, qui c'est le programme cadre de Yogo. Donc nous sommes vraiment dans une mesure d'information et également d'accompagnement des pays.
Alors, je vais jouer mon rôle d'avocat du diable, mais puisqu'il n'y a pas de moyens de contrainte, on se pose tout de même la question de l'utilité d'un tel rapport, aussi complet soit-il, puisque les gouvernements ne sont pas obligés de mettre en œuvre les mesures que vous préconisez.
Les gouvernements restent souverains. C'est clair qu'on préférerait pouvoir édicter nos propres lois et puis faire en sorte qu'elles soient simplement appliquées. Mais finalement, les pays, ce sont eux qui connaissent leur réalité. Et si eux, les gouvernements, ne prennent pas les dispositions qui sont adéquates, c'est aussi au peuple de se manifester d'une manière ou d'une autre pour faire que ceci soit respecté. Nous, ce que nous mettons à disposition de toutes les populations du monde, c'est à travers Internet une cartographie des risques. Si en habitant d'une zone dit « j'habite dans une région à risque et mon gouvernement ne fait rien », c'est aussi à la société civile de s'organiser et de manifester soit son mécontentement, soit également de s'organiser pour réduire les risques.
En matière de réduction des risques de catastrophes naturelles reste un aspect, un élément qui a son importance à mes yeux, c'est l'acceptation du risque. Et là j'ai l'impression qu'on vit une époque où l'être humain, hommes et femmes, ont beaucoup de mal à accepter qu'il puisse y avoir un risque. Finalement que le risque zéro n'existe pas.
Alors je crois que c'est assez intéressant comme question, parce que l'individu, lui, accepte de prendre des risques à partir du moment où c'est lui qui se les impose. Par contre, les individus ont plus de peine à accepter le risque qui vient de l'extérieur. Mais si on regarde quelques chiffres, quand même, le cancer des poumons, c'est 1,2 million de morts par année. Le trafic, c'est aussi plus d'un million de morts par année. Donc on voit qu'on est dans des chiffres sont très élevés. Les catastrophes naturelles, c'est à peu près entre 50 000, un ordre de magnitude qui est finalement en deçà en termes de mortalité. Par contre, quand un individu meurt de la cigarette, ça ne concerne finalement que lui, alors que l'aléa naturel, lui, va avoir un impact sur l'infrastructure, sur l'économie, sur l'organisation du pays, qui peut être beaucoup plus important, surtout pour les plus petits pays.
Pascal Pedouzi, je vous remercie. Je rappelle qu'un résumé de ce rapport sur la réduction des risques de catastrophes naturelles se trouve sur le net. Il est à votre disposition. Vous accédez facilement à toutes ces données via la page du magazine atlas.rsr.ch. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de ce rapport onusien. On va marquer une pause pour vous permettre d'écouter le journal de 9h. Et puis dans une dizaine de minutes, on va mettre le cap sur la mer Blanche où nous attend au bout de son téléphone et à bord de son voilier notre confrère Marc Decret. Mais dans l'immédiat, on fait un point sur les état des routes.
Infotrafic RSR
avec Faigle, solution d'impression pour les entreprises.
Sur l'autoroute Morat-Yverdon, la voie de droite devrait rester fermée durant encore une heure entre Avenches et Payerne en direction de Lausanne suite à un accident. L'inforoute en continu, c'est aussi sur le site internet trafic.rsr.ch.
Infotrafic RSR en collaboration avec les CFF et le TCS.
Vous écoutez la première, il est 9h, le journal est présenté par Jérôme Jeannin.
C'est probablement la décision la plus difficile de ma carrière. Ces propos plutôt amers sont signés Rafael Nadal. Le tennisman espagnol a déclaré forfait pour le tournoi de Wimbledon. Il évoque des douleurs au genou. La taxe sur le CO2 va tripler l'année prochaine. La décision ne fait pas que des heureux. L'UDC Guy Parmelin la juge incompréhensible, surtout en période de récession, même si les objectifs n'ont pas été atteints. Il n'y a pas d'exode des riches contribuables du canton de Neuchâtel, c'est ce qu'a déclaré hier le conseiller d'État Jean Studer. Selon une étude présentée hier, Neuchâtel perd chaque année 500 contribuables, mais la croissance des revenus imposables reste régulière. La journée s'annonce plus ensoleillée que prévu. Les averses se limiteront à la montagne en soirée. Les températures seront plutôt fraîches. Les prévisions complètes de Pascal Bénard dans une dizaine de minutes. Wimbledon se jouera sans le tenant du titre, Rafael Nadal. Le numéro 1 du tennis mondial a déclaré forfait hier soir à cause de douleurs au genou. Un peu plus tôt, l'Espagnol s'est incliné en 2-7 devant Stanislas Wawrinka, le Vaudois, en match exhibition. En conférence de presse hier soir, Nadal a expliqué que sa condition physique ne lui permettait pas de défendre son titre. Mais la décision est aussi d'ordre psychologique, Laurence Bolomet.
C'est probablement la décision la plus difficile de ma carrière, mais les faits m'aident à la prendre, a déclaré le numéro 1 mondial. Il a choisi de s'exprimer tout d'abord en espagnol pour bien pouvoir expliquer son choix, puis a répondu avec déception et émotion aux questions. Aucune option ne s'offre à celui qui joue depuis plus de 2 mois avec des douleurs aux 2 genoux. Son retrait de la compétition pourrait d'ailleurs perdurer, mais il ne sait pas encore combien de temps. Le problème est physique, bien sûr, bien que Rafael Nadal estime être en progression, mais il est aussi mental. Rafael Nadal pense plus à ses genoux qu'à son jeu, ce qui est bien sûr incompatible avec une recherche de victoire, car l'Espagnol n'est pas homme à entrer dans un tournoi sans tenter de le remporter. « Vos fans seront déçus », déclare un journaliste anglais. « Pas tant que moi », rétorque Rafa, un sourire gêné et déçu au coin des mots. Laurence Bolomet, Radio Suisse Romande, Wimbledon.
Et au premier tour de Wimbledon, Federer affrontera un joueur taïwanais, Yen Shunlu, et Wawrinka, un Argentin, Eduardo Schwank, deux joueurs classés respectivement 64e et 106e à l'ATP. En Iran, la manifestation prévue aujourd'hui par les opposants n'est pas annulée, malgré l'interdiction et la mise en garde du guide suprême. Hier, Ali Khamenei a exigé la fin des manifestations en apportant son soutien à la réélection contestée du président Mahmoud Ahmadinejad. Hier soir, Barack Obama s'est exprimé sur la situation en Iran. Le président américain avertit le gouvernement iranien que le monde observe son comportement. Il s'est cependant gardé de le condamner. Interrogé à la télévision, Barack Obama a dit se tenir auprès de ceux qui réclament justice pacifiquement, emboîtant le pas aux parlementaires américains. Le Congrès a adopté une résolution pour soutenir les Iraniens qui adhèrent aux valeurs de liberté. En Suisse, la taxe CO2 sur les combustibles passera de 12 à 36 francs la tonne l'an prochain. Il faudra donc débourser 9 centimes au lieu de 3 actuellement par litre d'huile de chauffage. Cette décision suit la volonté du Parlement d'augmenter cette taxe si les objectifs de diminution des émissions de CO2 ne sont pas atteints, ce qui est le cas pour 2008. Selon l'Office fédéral de l'environnement, cette hausse permettra de générer des recettes de l'ordre de 200 millions de francs, argent qui sera utilisé pour promouvoir l'assainissement des bâtiments. Cette décision ne plaît pas à tout le monde. Pour le conseiller national UDC Guy Parmelin, elle est tout simplement incompréhensible.
Nous sommes en période de récession économique. Les objectifs, certes, n'ont pas été atteints, mais ils ont été manqués de peu. Le Conseil fédéral tient un double langage qui est difficilement compréhensible pour les citoyens. Il y a quelque temps, on a dit que l'augmentation de la TVA pour l'assurance invalidité devait être retardée d'une année en 2011 pour des raisons de crise économique et éviter de péjorer le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, pour une autre taxe dont une partie a été transformée en impôt, il faut le rappeler, on ne tient pas du tout le même langage. On va augmenter cette taxe en 2010, donc péjorer le pouvoir d'achat. De la part du Conseil fédéral, il faudra une fois pour toutes qu'il tienne une ligne cohérente.
Doris Leuthard appelle à la retenue dans la polémique qui touche son collègue de parti, Urs Schwaler. Elle s'est exprimée hier soir lors de l'émission Zehn vor Zehn de la télévision alémanique. La conseillère fédérale estime qu'il n'est pas judicieux de donner son opinion sur les papables, car les ministres devront ensuite collaborer avec la personne élue. Doris Leuthard a par ailleurs suscité des réactions contrastées hier en annonçant vouloir renoncer à 10% de son salaire afin de financer une place de stage dans son département.
Des actions coup de poing pour stopper l'installation de l'usine de bioéthanol à Deux-Lémont. C'est une des options évoquées par le collectif contre l'importation de biocarburants, collectif qui a présenté hier sa plateforme à Deux-Lémont. Le Parlement jurassien va débattre mercredi de la motion d'Erika Henkin. La députée verte demande un moratoire de 5 ans sur les biocarburants. En attendant, elle explique à Christian Favre les actions prévues par le collectif.
Nous, on aimerait élargir notre collectif au niveau jurassien, bien sûr, du soutien au niveau jurassien au niveau suisse. On prévoit de différentes actions, par exemple pour la journée de l'alimentation au mois d'octobre, un train qui irait depuis Genève à Deux-Lémont qui s'arrête à différentes gares. Et dans chaque gare, il y aurait un petit événement qui serait organisé par une ONG qui partage notre souci.
Si votre motion qui propose un moratoire sur les agrocarburants est refusée par le Parlement jurassien la semaine prochaine, est-ce qu'on peut imaginer des actions coup de poing à la Greenpeace par exemple?
Oui, c'est pas exclu. On en a déjà parlé, mais rien n'est décidé pour l'instant.
Le Parti socialiste neuchâtelois a désigné hier soir le conseiller national Didier Berberat comme candidat à la succession de Gisèle Horry au Conseil des États. Cette dernière a renoncé à son fauteuil après son élection au gouvernement cantonal. Une élection complémentaire a été fixée au 27 septembre, mais on ne sait pas encore si la droite entend contester le siège socialiste. Neuchâtel, toujours. Neuchâtel perd chaque année 500 contribuables. Mais, contrairement à une crainte souvent formulée, les grosses fortunes ne fuient pas le canton. C'est ce que révèle un rapport présenté hier par le département des finances. Autre constat, la classe moyenne contribue toujours plus au paiement de l'impôt. Jean Studer, ministre des Finances neuchâteloises.
Je crois qu'il faut véritablement que les autorités politiques concentrent l'essentiel de leurs efforts à destination de cette catégorie de la population qui assure le ciment de la communauté. Là, la part que prend la classe moyenne dans le paiement de l'impôt est toujours plus grande, d'où une attention toujours plus soutenue qu'il faut porter à son égard.
Concrètement, des mesures qui pourraient être prises prochainement?
Oui, je crois que vous savez, le Conseil d'État vient de s'installer. On a maintenant ici des nouvelles données factuelles, objectives, qui doivent guider la réflexion politique. Un programme de législature devrait être présenté au Grand Conseil d'ici au printemps prochain. Et c'est dans le cadre de ce programme que le Conseil d'État élaborera les pistes qu'il entend donner pour essayer de commencer à inverser cette tendance. Ce canton doit être encore plus attractif. Il doit présenter, s'agissant des contribuables, un nombre plus important qui s'installe qu'un nombre qui se quitte, quel que soit l'âge et quelles que soient les catégories de revenus.
Un scandale politico-financier serait à l'origine de l'attentat de Karachi qui a fait 14 morts, dont 11 Français en 2002. Jusqu'ici, la piste islamiste était évoquée, mais aujourd'hui, l'avocat des familles affirme que l'attentat a été organisé en représailles au non-versement de commissions occultes, en marge d'un contrat d'armement entre la France et le Pakistan. Une affaire complexe qui pourrait se transformer en affaire d'État. Correspondance à Paris, Malika Nedir.
L'avocat des familles accuse. Il affirme que la piste islamiste est aujourd'hui abandonnée par les juges antiterroristes chargés de l'enquête. Jeudi, ces juges ont fait part aux familles de leur nouvelle hypothèse. Ce sont des officiels pakistanais qui ont commandité l'attentat. L'affaire débute en 1994 avec la signature de contrats portant sur la vente de sous-marins français au Pakistan. Ces contrats prévoient le versement de commissions et de rétro-commissions qui auraient servi à financer la campagne présidentielle d'Edouard Balladur, alors Premier ministre. En 1995, son rival Jacques Chirac, élu à la présidence, aurait stoppé le versement des règlements au Pakistan pour assécher le financement des réseaux Balladur. En représailles, des officiels pakistanais auraient organisé l'attentat kamikaze de 2002, tuant 11 ingénieurs et techniciens français travaillant à la construction des sous-marins. Leur famille dénonce un mensonge d'État et exige la vérité. Edouard Balladur répond qu'il n'a rien à dire sur cette affaire. Quant à son ancien ministre du budget, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui à l'Élysée, il juge cette hypothèse grotesque. Malika Nedir, Radio Suisse Romande, Paris.
Et en cyclisme, Fabian Cancellara reste bien placé pour remporter le Tour de Suisse. Avant l'étape de Crans-Montana aujourd'hui et le contre-la-montre final de demain à Berne, le cycliste bernois compte 9 secondes, toujours de retard sur le Slovène Tadej Vajlavec. Hier, c'est le luxembourgeois Kim Kirchen qui a remporté la 7e étape à Valorbe. La météo, Pascal Bénard.
L'ensoleillement augmente d'heure en heure et se révèle plus généreux que prévu. Les restes de la perturbation d'hier s'éloignent vers l'est, poussés par un rapide courant du nord. Il rafraîchit l'atmosphère. Les températures en plaine varient en ce moment de 11 à 14 degrés. Au cœur de l'après-midi, les thermomètres indiqueront des maxima de 19 à 21 degrés. On ressentira la présence d'une faible bise ou d'un léger jorrant. En fin de journée, une nouvelle zone pluvieuse qui vient d'atteindre la Normandie abordera nos régions. Elle pourrait donner quelques averses en soirée à la montagne. Le temps demain s'annonce plus changeant qu'aujourd'hui. Quelques averses sont de l'ordre du possible, surtout le long des Préalpes. Les températures continueront de se tasser. Il ne fera pas plus de 18 degrés.
La météo avec la Mobilière et ses assurances vie, lamobilière.ch. Atlas. Une émission de François Benedetti. Présentation Xavier Bloch.
Catastrophe. Le mot tant redouté est prononcé, il s'affiche même ce matin à la une de ce magazine. Dans une dizaine de minutes, nous évoquons la catastrophe aérienne. Nous verrons qu'aviation et météo ne font pas toujours bon ménage. C'est ce que révèlent les premiers éléments de l'enquête sur la récente catastrophe du vol Air France qui reliait Rio à Paris. Pour l'instant, prenons la mer pour une croisière blanche. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez peut-être à l'instant pour suivre la seconde partie d'Atlas. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Marc Decret est un confrère, journaliste RSR au pied marin, amoureux du Grand Nord. Il navigue cette année sur la mer Blanche à bord de son voilier dont le nom vous est certainement familier puisqu'il s'appelle Chamade. On retrouve régulièrement Marc dans cette émission pour ouvrir avec lui son carnet de bord. C'est le cas ce matin. Bonjour Marc, je vous dis évidemment Dobry Dien.
Oui, bonjour Xavier, bonjour de Arkhangelsk puisque nous sommes ici à quelques, je dirais, kilomètres d'Arkhangelsk, cette première grande ville de l'histoire russe à avoir été transformée en port dans le Grand Nord. Et tout ça, c'est de l'histoire ancienne.
Quand vous dites à quelques kilomètres, vous êtes sur terre ou sur mer ?
Alors, nous sommes en mer. Nous sommes en train de faire un immense chenal qui fait près de 40 kilomètres de long. Nous traversons une forme de delta, puisqu'Arkhangelsk a été construit sur une rivière. Et nous avons embarqué, il y a quelques minutes, un pilote à bord. Et le pilote lui-même étant particulièrement, assez draconien, c'est donc Sylvie qui est à la barre. J'en profite donc rapidement pour parler avec vous. Il ne faut pas que je fasse trop long parce que manifestement, il n'aime pas trop que les femmes soient à la barre. Vous voyez qu'il y a encore quelques évolutions à faire par ici.
Alors, Marc Decret, la communication par téléphone est excellente. La navigation, est-ce qu'on peut la qualifier d'excellente aussi ? Enfin, quelles sont les conditions de navigation ces derniers jours en mer Blanche ?
Mais disons que la traversée entre Mourmansk et Arkhangelsk, qui faisait quand même près de 700 km, plus de 3 jours et demi de mer, très moyenne hein, comme condition, temps gris, ciel assez plombé. Ce matin, le vent souffle beaucoup plus fort que la météo ne l'avait prévu. Et ce qui est assez frappant, moi, ce qui me frappe vraiment ici, d'abord, c'est la couleur de l'eau. Elle a une sorte de couleur brun-olive complète. Et même lorsque les vagues déferlent, on a l'impression que c'est de la mousse brune-olive. Et puis d'autre part, c'est l'absence d'animaux. Il faut se rendre compte qu'on est dans une région quand même très, 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 très particulière.
Marc Decret, dans cette émission, on évoque souvent l'environnement, la faune, la flore. Vous n'avez pas vu beaucoup d'oiseaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette absence ou cette discrétion de la faune dans la région que vous avez traversée ?
Alors, je dirais que je n'arrive pas à lui donner une explication scientifique pour l'heure. Hein, c'est une constatation. J'ai quand même l'impression que depuis que nous avons quitté les côtes de Norvège, les oiseaux sont en nette diminution, sans doute parce qu'ici, on est dans une zone où la mer est beaucoup plus, je dirais, plus froide, plus éloignée, avec sans doute moins de poissons. Il n'y a aussi pratiquement pas de bateaux de pêche. Donc, qui dit pas de pêcheur dit sans doute pas de poisson, et qui dit pas de poisson dit sans doute pas d'oiseau.
Alors, vous avez mentionné Mourmansk, c'était votre dernière intervention. Enfin, vous apprêtiez à faire escale à Mourmansk. Comment s'est déroulée l'entrée en Russie dans cette région et ce port stratégique ? Avec quel genre d'accueil ?
Alors, je dirais un accueil chaleureux, mais très formel, hein, puisqu'il a fallu effectivement annoncer notre arrivée, y compris l'heure exacte de franchissement des eaux territoriales. Puis ensuite, nous avons été très rapidement reconnus, si j'ose dire, par un garde-côte qui est venu voir si c'était bien nous. Puis ensuite, par des autorités qui nous attendaient au port. Et évidemment, les formalités, les papiers furent innombrables. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'ici, évidemment, que ce soit d'ailleurs à Mourmansk ou à Arkhangelsk, on ne reçoit jamais ou pratiquement jamais de voiliers. Tout est fait pour les cargos. Et évidemment, les papiers tiennent compte des cargos. Donc, allez expliquer à quelqu'un que vous ne pouvez pas remplir la case hauteur du château arrière ou encore nature de la cargaison que vous allez débarquer. Vous avez quelques quiproquos, mais ce que j'ai senti, c'est quand même beaucoup de gentillesse et surtout le souci pour tous ces fonctionnaires d'arriver à s'en tirer le moins mal possible.
Alors Mourmansk, vous y étiez en fin 2007, hein, vous avez réalisé un reportage d'ailleurs pour Atlas sur la bagarre pétrolière qui se prépare dans l'Arctique. Quel changement est-ce que vous avez noté en 18 mois dans cette région ?
Je dirais que la ville semble toujours en train d'essayer de se remettre de la catastrophe économique qui a été la diminution drastique des budgets militaires de la flotte du Nord, puisque cette ville dépendait essentiellement de la flotte militaire. C'est une ville qui a perdu en 10 ans 100 000 habitants sur les 450 000 qu'elle faisait. Ça fait un quart de sa population. Alors tout ça est effectivement difficile. On sait, il y a maintenant une année et demie, quand j'y ai passé, que tout le monde espérait sur l'exploitation gazière du gisement de Stockman, qui se trouve à 600 km au large de Mourmansk. C'est le plus grand gisement gazier sous-marin du monde. Eh bien, on voulait, à l'époque, on parlait de mettre cela en marche d'ici 3 ou 4 ans. C'est clair qu'avec la crise énergétique, la baisse aujourd'hui du prix du pétrole, eh bien, inévitablement, le projet s'est ralenti et la ville continue quand même, je dirais, de vivoter. Il y a une chose qui est très frappante, c'est l'écart, hein, comme souvent maintenant en Russie. D'un côté, plein de nouveaux riches avec des 4x4 rutilants, et puis de l'autre, une grande majorité de la population qui doit quand même se serrer la ceinture pour terminer le mois.
Alors, Marc Decret, juste avant de se dire au revoir, Mourmansk, c'était l'étape précédente. Arkhangelsk, c'est la prochaine étape, celle qui vous attend d'ici quoi, une ou deux heures de navigation. Et puis, j'anticipe un peu, quelle sera la prochaine étape ?
Eh bien, d'ici une grosse semaine, nous repartirons d'Arkhangelsk pour l'archipel du Goulag, qui a été transformé à l'époque du stalinisme en immense camp de travail, célèbre notamment par les écrits de Solzhenitsyn, et qui est redevenu aujourd'hui à nouveau un grand monastère orthodoxe. Nous irons donc voir ces îles chargées d'histoire, mais aussi chargées de bâtiments merveilleux, puisque ce monastère est somptueux, même s'il est entouré encore autour de restes beaucoup plus lugubres de ce que fut quand même le stalinisme et le goulag.
Alors on se réjouit de vous y retrouver, étape à suivre bien entendu dans ce magazine. Rendez-vous est pris autour du 3 ou 4 juillet. Marc Decret, je vous remercie, bonne suite de navigation, bon vent. Et puis je rappelle qu'on peut suivre votre périple russe sur le net via votre site régulièrement mis à jour, c'est chamad.ch. Bonne journée en mer.
Merci.
On écoute Marc Aymon avant d'aborder le dernier sujet de ce magazine, météo et aviation.
J'avais laissé ma guitare avec les doutes, mes idées noires. Je n'osais plus chanter d'histoire, ne lui donnais plus mes mains. Mais j'ai posé quelques accords, ressenti son corps vibrer tout contre le mien. Moi qui ne trouvais plus les mots, elle me glissait à nouveau son refrain. Va vers ce que tu aimes. Ce que tu aimes. Ce que tu aimes. J'avais laissé mes chansons avec ma part la déraison. J'avais jeté ce crayon qui n'inventait plus rien. Puis j'ai risqué ces quelques mots. Qui ne gardait plus l'accord d'oser y croire encore aujourd'hui pour les miens. Va vers ce que tu aimes. Va vers ce que tu aimes. We'll be right back.
guitare, mes chansons dans leur tiroir. Et aujourd'hui, l'air de rien, je te laisse un refrain. Je te laisse ce refrain.
Atlas, Atlas, Atlas.
Météo et aviation, c'est un couple qui ne fait pas toujours bon ménage. C'est ce que nous a récemment rappelé la catastrophe de l'Airbus d'Air France disparu dans l'Atlantique Sud lors d'un violent orage. Et pourtant, la météo est rarement la seule cause des accidents d'avion. Lorsqu'un pilote prépare son vol, il va chercher des informations à propos de la situation météo au départ, en route et à destination. Et ces conditions météo vont déterminer la trajectoire de l'avion, c'est-à-dire les voies aériennes qu'il va emprunter. Mais en météo, on le sait, les conditions réelles diffèrent parfois nettement des conditions prévues. Alors, est-ce que les pilotes ont toujours la possibilité de se détourner, d'emprunter d'autres voies aériennes, plus à gauche, plus à droite, voire de monter ou de descendre? C'est la question que François Benedetti a posée à François Clavadetcher. Cet ancien commandant de bord long courrier de la compagnie suisse est instructeur de vol sur Airbus et expert auprès du Bureau fédéral d'enquête en cas d'accident d'avion. François Clavadetcher.
Alors bon, sur l'Atlantique Nord, la question ne se pose pas en termes d'évitement de cumulonimbus qui sont pratiquement inconnus. Ou s'il y en a, ils ne montent pas très haut, l'eau étant beaucoup plus froide. En revanche, sur l'Atlantique Sud, c'est assez différent. Il y a justement dans cette zone de convergence intertropicale, il y a différents phénomènes, en particulier lorsque on passe de l'hiver à l'été chez nous. Il y a tout un mouvement qui se fait et l'activité augmente à ce moment-là. Alors on peut éventuellement choisir une route, mais ça c'est en partant par exemple de São Paulo ou Rio, c'est quand même 5 heures avant d'être sur place qu'il y a un choix à faire. Alors il est quasiment impossible de deviner où va se trouver la cellule principale. On a peut-être entendu parler, si on a un peu de chance et qu'on a croisé l'équipage descendant, on a peut-être entendu parler d'activité environ où, mais ça n'est pas tellement une chose fiable quand on sait que ça évolue quand même assez rapidement et qu'en une demi-heure, il peut y avoir un gros changement.
Alors, si on regarde l'image prise par le satellite Météosat au moment où le vol Air France 447 a disparu dans l'Atlantique, on voit nettement une large zone orageuse, mais on voit aussi que l'avion suit une route qui passe vraiment au milieu de cet amas orageux. Est-ce qu'à bord, les pilotes n'avaient aucun moyen de situer cette zone perturbée et de s'en éloigner ?
Si un radar météo fonctionne correctement, est utilisé correctement, on peut quand même voir toute cette zone que les météorologues appellent multicellulaire convecting system, donc dans toute une zone à très forte convection et surtout qui est très large. Quand je dis large, c'est de gauche à droite de l'horizon, il y a des obstacles sous forme de cumulonimbus. On ne peut pas toujours les survoler, surtout à ces latitudes où on sait qu'il y a des morceaux de cumulonimbus qui montent au-dessus de 15 000 mètres. Ça, on le sait, et tous les avions de ligne réguliers restent en dessous de ces altitudes. Et donc, il faut les contourner. Maintenant, il faut dire qu'il y a 4 voies aériennes plus ou moins fixes sur l'Atlantique Sud. Ce qui est une grosse différence par rapport à l'Atlantique Nord où on choisit en fonction des vents qui sont violents. Là, il n'y a pas de vent violent, mais tout ce qui est violent, c'est lié au développement vertical de ces cumulonimbus. Et là, évidemment, pour choisir la meilleure route, ce n'est pas sûr qu'on puisse le faire au niveau de la planification du vol. Donc, il y a un élément planification, puis ensuite, il y a un élément improvisation. Est-ce qu'il y avait la possibilité, sur le champ, en voyant ça, de dévier de 45 degrés à gauche ou à droite? Est-ce qu'il y avait cette possibilité-là? Est-ce qu'ils étaient confrontés à des problèmes de trafic conflictuels? On n'en sait rien. Ça va être un travail des enquêteurs.
Alors d'après les messages automatiques transmis par l'avion, on sait que durant les toutes dernières minutes de vol, le pilote automatique s'est déclenché. À votre avis, François Clavadetcher, est-ce que de fortes turbulences peuvent provoquer le déclenchement du pilote automatique?
Oui, mais ce n'est pas sûr que ce soit ça qui se soit produit. Peut-être que la séquence qu'on connaît, enfin qu'on croit connaître, n'est pas exactement celle qui s'est passée en réalité. Peut-être qu'il y a eu une première alerte au niveau d'une vitesse erronée et que dans ce cas, un pilote a décidé de déclencher le pilote automatique. On ne peut pas en être certain. C'est seulement lorsque les enregistreurs seront récupérés qu'on pourra connaître exactement la séquence. Donc de ce côté-là, il faut espérer qu'on les récupère.
Vous parliez des mesures de vitesse hein, à propos de ces sons, les fameux tubes pitot. Est-ce que ce n'est pas un peu le talon d'Achille des avions modernes? Parce qu'on a là un simple tube qui peut se boucher avec des poussières ou avec des insectes. Il y a des phénomènes de givrage. C'est comme un peu rustique sur des avions qui, par ailleurs, sont bourrés d'électronique.
Oui, c'est vrai, on peut peut-être penser cela, mais ces tubes qui ont été testés, ils ont fait l'objet d'une homologation. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les quelques années où ils ont été installés? Est-ce qu'il y a, par exemple, je pense spontanément à une dégradation du système de chauffage, parce qu'ils sont chauffés électriquement pour résister aux givres et pour ne pas être bouchés précisément par de la glace. Alors, ces tubes ont été testés. C'est sûr que si on en retrouve un, il va l'être. Et puis, tous ceux qui ont été démontés récemment et qui ont été remplacés par la nouvelle version, certainement qu'ils vont faire l'objet de tests au niveau du bureau d'enquête. Je pense que ça, c'est une chose indispensable. Hein.
Sans information sur la vitesse de l'avion, qu'est-ce qui peut se passer?
Sans information aucune sur la vitesse, c'est délicat, c'est difficile. Il y a des procédures pour ça et quelquefois elles sont entrées en simulateur de vol. Seulement ce qu'on ne peut pas simuler vraiment, ce sont les turbulences qu'on rencontre dans un cumulonimbus. Parce qu'au bout de quelques exercices, on aurait détruit le simulateur ou en tout cas beaucoup de choses qui ont beaucoup de valeur à l'intérieur. Donc ce qu'on ne peut pas vraiment simuler, c'est ce qui va avec. En revanche, on peut très bien simuler la perte de lecture de vitesse en disant voilà, on a un monstre givrage et puis débrouillez-vous messieurs. Alors si on n'est pas dans une atmosphère qui est comme des montagnes russes, il y a possibilité évidemment, pilote automatique déclenché, de maintenir l'assiette de l'avion, de ne pas trop modifier la puissance au moteur, et là on garde une certaine maîtrise de la machine.
Mais tout de même, le pilote automatique déclenché, une mauvaise information sur la vitesse de l'avion due à ces sondes pitot défectueuses, une météo particulièrement difficile, ça c'est une situation qui devient critique pour continuer à faire voler l'avion en toute sécurité.
Alors oui, sans doute, mais bon, tout est lié. Moi je vois ça vraiment d'une manière un peu globale. Une chose en entraîne une autre. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise évaluation de la violence de l'orage. Quand on, par malheur, il se trouve qu'on entre, sans le vouloir peut-être, à l'intérieur d'une zone nuageuse avec une très forte convection, ça peut monter à l'aile droite, descendre à l'aile gauche. On peut imaginer le début d'un quart de tonneau ou des choses comme ça. Et là, ça devient hyper délicat à gérer. Ça devient vraiment un problème.
Pour conclure, François Clavadetcher, en tant qu'expert, vous êtes appelé de temps à autre auprès du Bureau fédéral d'enquête sur les accidents d'avion. Est-ce que vous estimez que les conditions météo sont une des causes dominantes des accidents en aéronautique?
Alors, des accidents en aéronautique, peut-être pas, mais en tout cas dans l'aviation légère, c'est certain, oui. Dans l'aviation lourde, quand même beaucoup moins. On est dans le transport public, il ne faut pas l'oublier. Dans le cas de ce vol, c'est vrai que si on n'avait pas eu ces gros cumulonimbus, on ne parlerait jamais de ce vol, à mon avis. C'est clair que là, c'est lié, c'est un facteur contributif majeur. Les enquêteurs vont devoir faire beaucoup de recherches, un tas de choses. On aimerait bien connaître la vérité dans des cas comme ça, oui, absolument.
C'était François Clavadetcher, ancien commandant de bord chez Suisse et expert auprès du Bureau fédéral d'enquête en cas d'accident d'avion. À noter la publication de l'image satellite hein, au moment de la catastrophe de cet Airbus, une image éloquente. Elle révèle la route et la position de l'avion en plein milieu de l'immense amas orageux. Une image fournie par Eumetsat que vous pouvez consulter si vous le souhaitez via notre site atlas.rsr.ch. C'est sur cette image tragique que nous refermons ce magazine, une émission produite par François Benedetti avec la collaboration de Xavier Bloch et de José Moreno pour la programmation musicale. Rendez-vous samedi prochain, nous serons sous le Gothard à la rencontre des ouvriers, des ingénieurs qui percent le plus long tunnel ferroviaire du monde. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de la première et je vous laisse bien sûr en très bonne compagnie, celle de Florence Farion et de toute l'équipe de la Smala.